Bien, nous sommes maintenant dans la huitième Mishnah. Que dit la huitième Mishnah? Yehuda ben Tabaï et Shimon ben Shetach kiblou mem. Donc ils ont reçu eux-mêmes des Tanaïm d'avant. Yehuda ben Tabaï omer. Al ta'ase atzmecha ke ocher dayanim. Ne devient pas, on va voir ce que c'est, que Ochea Dayanim, ne vient pas comme un juge marron, on va dire, comme quelqu'un qui est tordu. Un juge tordu. Ne sois pas comme un juge tordu. Ça, c'est un. Deuxième chose, que, ça, c'est Yehuda ben Tamai qui dit ça. Que Shayou Baledinim Omdim Lefanecha. Quand tu auras devant toi deux protagonistes que tu dois juger, quand ils sont devant toi avant le jugement, Iubeinera, qu'il soit à tes yeux, Kerachaim. Tu dois les voir comme des coupables, comme des méchants. Très, très bizarre. Comme des méchants. Vegeshenif Tarim Milfanecha, et quand ils s'en vont, quand t'as fini de les juger, Iubeinera Kezakaim. Que tu les vois tous les deux, même celui qui a été condamné, comme quelqu'un de méritant. De plus comme un rachat. Oh. Les Keshi Kablu, Alehem et Adin. Quand ils reçoivent sur eux le din. C'est ça que dit la Mishnah. Alors tout d'abord, on voit ici quelque chose d'extraordinaire. On voit, le Maharal en parle, que la notion de recevoir la loi, la notion de recevoir la loi, est une notion qui fait que tu, en recevant la loi, tu es purifié. Tu passes d'un état de rachat, de mécréant, de méchant, à un état de zakaï. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que, et ça, il faut bien comprendre ça, l'essence même de la kapara, l'essence même de l'expiation, le fait qu'un homme peut être pardonné de ses péchés, vient du fait qu'un homme est capable de lier sa vie à la loi. Comment est-ce qu'on pardonne ses péchés? C'est pas juste en faisant des zakot, en faisant tshuva, bien sûr que ça marche. Là, tu vois, c'est l'essence même du retour de l'expiation du péché. Mais ça suffit pas. Il y a des choses où la tchouva ne marche pas. Ce qui fait une kapara, et en vérité, la tchouva, c'est ça, la tchouva. Ce qui fait la kapara, c'est quand je suis capable de lier mon existence, ma vie, à la loi. Par exemple, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie de dire du lachona. Je ne le dis pas. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur, ou parce que la loi veut pas, Dieu veut pas. La Torah de Dieu veut pas. Je m'arrête de le dire. Ça amène une expiation totale. Ça amène un kapara total. J'ai pas envie de me lever le matin. J'ai pas envie de me lever le matin. Je suis fatigué. Et je dis, il faut que je me lève pour la tefila. Pourquoi? Pas parce que mes copains vont dire que je suis pas bien. Parce que Dieu, il m'attend. Dieu, il veut que je me lève. Moi, je me lève. Oh, ça amène une kapara extraordinaire. Le fait de lier son énergie vitale, sa vie, à la loi, à la volonté de Dieu, c'est ça la clé, la pierre angulaire du pardon. C'est ça qui amène le pardon. C'est ça qui amène l'expiation. Parce qu'à ce moment-là, Hachem il pardonne. Parce qu'il dit, voilà un homme qui est dans le combat du bien et du mal. Et là, des fois il tombe, des fois il tombe pas. Des fois il arrive à gagner, des fois il tombe, des fois il fait des avérotes. Des fois il arrive à maîtriser son corps pour faire ma volonté. Donc il fait partie du plan divin. Le plan divin, c'est qu'un homme soit un soldat pour combattre le Yetzer Hara et faire triompher le Yetzer Hatov, mais tout le monde comprend que personne peut à tous les coups gagner. Tout le monde comprend que dans une guerre, il y a des batailles qu'on gagne, des batailles qu'on perd. Mais quand on a gagné la guerre, à la fin, même les batailles qu'on a perdues, elles font partie de la guerre que j'ai gagnée. Donc à la fin, celui qui fait la volonté de Dieu, qui se bat pour la volonté de Dieu, et qui arrive à unir sa vie à la volonté de Dieu, même ses échecs, ça devient une partie de son combat pour être l'esclave de Dieu, donc tout est pardonné. Parce que même ses avérotes, en vérité, elles faisaient partie du plan de la grande lutte contre le mal, et il est pardonné. Or ici, on va plus loin. On dit que si tu rentres ton existence sous le jugement du Dayan, du juge toraïque, et qu'il te condamne, il te condamne, mais tu acceptes cette condamnation. Tu dis d'accord, j'ai mal fait, je dois, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Et j'accepte. Là, je lis mon existence à la loi. Je suis passé du tzad ou rachaim Les deux étaient des rachaïm. Méchants, mécréants, affreux jojo. Je passe d'un niveau de affreux jojo à Zakaïm. Zakaï, il est pur, il est purifié. La loi l'a rendu méritant. Et donc ça, c'est un grand yesod. Grand yesod. Un grand yesod dans l'existence, c'est de mettre son existence, sa vie, ses pensées, sa parole, ses actions, sa vie, de la soumettre à la loi de Dieu et d'accepter cette loi, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ça qui fait l'union entre le spirituel et le matériel, qui est lui-même le secret de l'expiation, de la capara, de l'effacement de tous les péchés. Alors après il dit, ne soyez pas, il y a beaucoup d'explications, qu'est-ce que c'est, ohé, ne soyez pas comme ohé adayani. Alors une, je vais prendre l'explication, la dernière que donne Rashi. Rashi dit, ne sois pas un tohen rabbani, ne sois pas quelqu'un qui donne, comme les goïms, il dit comme les, qui utilise ton savoir de la loi pour conseiller comment la personne va le mieux s'en sortir dans un beddin. Alors vous allez me dire, j'ai le droit de défendre mes droits, j'ai le droit de prendre un avocat qui va me dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que sont mes droits, quels sont mes devoirs, j'ai le droit de me renseigner. Non, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu rentres la Torah dans un système de manipulation de la loi. Le beddin doit être un lieu où tu rencontres Dieu. Le beddin doit être un lieu où tu veux que la vérité sur ton cas soit faite. En vérité, c'est comme ça. Tu as un différend avec ton voisin, sur un balcon, sur une place de parking, sur ce que tu veux. Et il lui dit quelque chose, toi tu dis le contraire. Et chacun est persuadé d'avoir la vérité. Vous allez tous les deux devant le chauffeur, devant le Dayan, devant la Torah. On doit être content de ce que la Torah nous dit. Si je dois payer, je paye. Si je dois perdre mon cas, je paye. Je dois être content. Pourquoi est-ce que je dois faire ce que la Torah dit? Tu n'as pas utilisé la Torah pour faire valoir tes droits. Ça, c'est complètement akoum. C'est l'anti-Torah. Ça, c'est vraiment le système juridique goy. Où la loi est un chantier, où la loi chez eux, le tribunal est un champ de bataille du plus éloquent, de celui qui va amener le plus d'arguments, de celui qui va tordre le plus intelligemment, avec le plus de perspicacité, la loi pour faire que chacun, que mon client va s'en sortir le mieux possible, défendre ses intérêts comme si la loi était une menace. Alors effectivement, chez l'égoïme, la loi est une menace. Le politique, la loi de la société est là pour t'assassiner. Alors bien sûr qu'il faut des avocats pour te défendre, ça c'est sûr. Mais la loi de la Torah, c'est pas une menace. La loi, elle est pas là pour t'assassiner. La loi de la Torah, elle est là pour t'élever, pour te dire comment tu dois vivre conformément à la volonté de Dieu qui est la lumière et la vérité et l'éternité. Donc si tu dois payer, paye! Si t'as tort par rapport à ton voisin, paye! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Demander des conseils à Tohen Rabbani pour savoir comment tu peux t'en sortir. Si quand tu divorces ta femme, Dieu préserve, tu dois lui payer ce qui lui revient, paye! Si les Rabbani me disent tu dois donner le guet, donne le guet, ne sois pas un rachat qui gâche sa vie et ta vie juste pour être un méchant, espèce d'idiot. La souffrance que tu occasionnes aux gens sera un feu éternel après la mort. Sois intelligent. Tu dis ce que la Torah, elle veut que je fasse, je fais, et ça, je suis le gagnant. Là, je suis un winner. Là, je suis un gagnant. Là, je suis pas un loser. Je suis pas un pauvre type. Je fais ce que la Torah me dit de faire. Donc, je suis forcément gagnant. Que je paye ou que je paye pas, que je sois obligé de donner le guet, ou que je suis pas obligé de le donner, que je suis obligé de gagner ou perdre, on s'en fiche. Ce qui est important à la fin, est-ce que j'ai fait ce que Dieu voulait? Tu l'as fait, c'est magnifique, t'as gagné, t'es un winner. Tu l'as pas fait, t'es un loser. Ah, t'as réussi à économiser 100 000 euros. 100 000 euros, je l'ai pris, j'aurais dû lui payer, après la halakha, je l'ai pas payé, je suis vraiment un malin. C'est vrai que j'ai payé 10 000 euros à un super tohen rabbani qui m'a dit ce qu'il fallait que je dise. Je suis vraiment malin, tu crois que t'es un malin, t'es un pauvre type. Ces 100 000 euros, ils vont te coûter des milliards d'euros après la mort. Ne soyez pas quand les ohé adayanim, ne soyez pas des gens tordus. Ça veut dire, soyons capables de considérer la Torah comme quelque chose qui est bénéfique. Ce que la loi dit, c'est ce qu'il faut que ça soit. Faut pas être plus malin que Dieu. Si Dieu dit, il faut que tu payes, tu dois payer. Si Dieu dit, il faut que tu divorces, tu dois divorcer. Si Dieu dit, il faut pas divorcer, il faut pas divorcer, mais il faut demander à Dieu. Ça veut dire, tu demandes au rabbanim, tu deviens aux grands initiés qui savent la halakha, la loi et les gdolim, on demande quoi faire. S'ils te disent quoi faire, tu fais. et t'es le winner. Là, t'as gagné ta vie. Tu le fais pas, t'es un loser. T'es un perdant, t'as raté ta vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand on rentre dans ce système où la vie elle-même est assujettie au feu de la Torah, c'est toute la vie qui s'illumine de la Torah. Et à ce moment-là, on ne peut être que gagnant, ça ne peut être que le bonheur, à le va et à l'énoir.